le magazine des Nations Unies.
La force de la MONUSCO restera au sud de Lubero pour assurer la protection des populations civiles. Cependant, la mission onusienne estime que la stabilisation de cette contrée est aussi parallèlement tributaire à la fois de la réconciliation entre les communautés, la responsabilité et la restauration de l'autorité de l'État. Et toujours dans la même province du Nord Kivu, l'observatoire volcanique de Goma, doté d'une sirène d'alerte, un don de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Les détails dans cette édition. Enfin, MONUSCO et Université de Kinshasa, la collaboration passe bien, même très bien. Fruit de cette collaboration, un bâtiment servant de bibliothèque pour le Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale de la Faculté de Droit vient de voir le jour. Une manière pour la mission onusienne de contribuer à la qualité de l'enseignement de la criminologie dans cette prestigieuse institution universitaire de la RDC. Vous suivrez un reportage sur ce sujet et l'entretien d'un professeur responsable du centre bénéficiaire de cet ouvrage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Les casques bleus resteront au sud du territoire de Lubero pour assurer la protection des civils de cette partie du Nord Kivu. Déclaration faite mercredi dernier par le commandant adjoint des forces de la MONUSCO. C'était au cours de la conférence hebdomadaire de l'ONU. Mais en même temps, la mission de l'ONU parle des trois autres conditions pour stabiliser la zone. Les propos du général Bernard Gomis au micro de Jean-Pierre et Lali Ikoko.
Ce groupe armé. Il est vrai que, comme vous le dites, ils ont appelé il y a quelque temps les populations Hutu à quitter une région et à même mettre un ultimatum. Ce que je peux vous dire, c'est que les forces de la MONUSCO qui sont déployées dans cette région et dont on a entendu dire ici ou là qu'elles pouvaient avoir l'intention de se retirer, c'est faux. Les forces de la MONUSCO que nous avons dans cette région y sont, y resteront aussi longtemps que la situation le nécessitera. La force a une part de responsabilité pour préserver la sécurité, élargir la sécurité, combattre les groupes armés. Mais d'autres ont aussi des responsabilités pour amener des populations à dialoguer, à se réconcilier, pour permettre la restauration de l'état de droit et aussi pour rendre chacun de ceux qui commet un acte délictuel responsable de ces actes. C'est simplement la règle des trois R.
Autre nouvelle, volet catastrophe naturelle, les éruptions volcaniques sont toujours une menace permanente pour les populations de Goma. Désormais, elles pourront être prévenues de la survenue du phénomène grâce à un mécanisme d'alerte offert par la MONUSCO et dont le coût est évalué à 200 000 dollars américains. Jean-Pierre Lally, bonjour. Expliquez-nous plutôt l'importance de ce dispositif sécuritaire.
Bonjour Tina, bonne nouvelle pour les Gomatraciens. Une sirène allant jusqu'à 6 km à la ronde a été remise vendredi 3 mars à l'Observatoire volcanique de Goma. Vous l'avez dit Tina, c'était en présence du gouverneur de province Julien Paluku et du chef de bureau de la MONUSCO Daniel Ruiz. Et c'est le gouverneur lui-même qui a procédé à l'essai d'activation de ces dispositifs. Alors, la sirène d'alerte est si importante qu'elle sert de lancer l'alerte en cas d'une éventuelle éruption volcanique à Goma et ses environs. Et selon le gouverneur Paluku, une fois l'alerte sonnée, chacun évacue calmement ses biens. Pour rappel, Tina, une éruption volcanique avait eu lieu dans cette ville en 2002. Elle avait entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. L'inexistence à l'époque d'un tel dispositif d'alerte avait largement contribué à l'aggravation de la situation. Et maintenant, avec cette nouvelle acquisition, les habitants de Goma seront désormais mieux prévenus en cas de danger qui viendrait des volcans.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons encore ce dimanche sur la journée internationale des enfants à la radio et à la télévision en vous proposant l'entretien que Jean-Pierre et Lali Coco avaient eu avec deux enfants reporters de Kinshasa. Des enfants encadrés par les fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF.
Jenny Ndindir et Emiradi Zumbu, bonjour.
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 Vous êtes des enfants reporters. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de la célébration de la journée internationale des enfants à la radio et à la télévision. Qu'est-ce que c'est un enfant reporter?
Oui, moi je commence. Alors, un enfant reporter, c'est un enfant des 10 à 17 ans et issu de n'importe quelle catégorie sociale, initié aux techniques de plaidoyer, à la coopération UNICEF-RDC, à la production de vidéos, de photos, tout ça dans le but de mener un plaidoyer.
Pour moi, je dirais la même chose, sauf que je vais rectifier un truc, c'est un enfant de 12 à 17 ans. Et nous sommes formés grâce à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux techniques de plaidoyer.
Comment vous travaillez et que faites-vous précisément dans le travail qui est d'un enfant reporter?
Bon, dans notre travail, nous défendons les droits des enfants à la télé et dans les communautés. Nous descendons sur le terrain pour prendre des vidéos, faire des supports pour les donner aux autorités.
Moi, je dirais que, en tant qu'enfant reporter, notre travail est de mener le plaidoyer sur les questions qui touchent l'enfant. Ça peut être les enfants qui, par exemple, souffrent de la malnutrition, les enfants qui ne sont pas scolarisés, les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil, les enfants qui ne sont pas vaccinés, voilà.
Donc, vous faites un travail de plaidoyer, si je comprends bien.
Oui, voilà, un travail de plaidoyer.
Alors, nous allons entamer la deuxième partie de notre entretien. C'est justement sur le thème de cette année, c'est la participation des enfants. Miradi, qu'est-ce que vous entendez par la participation des enfants?
Pour moi, la participation de l'enfant, c'est le fait de laisser un enfant s'exprimer ou de participer à tout le mécanisme et système qui le concerne.
La participation, c'est un droit, est-ce que vous le savez?
Oui, je sais très bien que c'est un droit.
Alors, quels sont les instruments juridiques internationaux et aussi nationaux que vous connaissez qui défendent ce droit?
Alors, comme instrument juridique international, il y a d'abord la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant. À part ça, je peux ajouter aussi la Charte africaine des droits de l'enfant. Alors, comme instrument national, il y a la loi portant protection de l'enfant qui assure la participation de l'enfant et que cette participation soit effective.
Est-ce que ce droit de l'enfant, on peut dire qu'il est respecté? En d'autres termes, la participation de l'enfant est respectée en République démocratique du Congo, surtout à travers les médias?
On pourrait dire que la participation n'est pas vraiment respectée, parce que si nous nous basons plus dans des programmes qu'on nous diffuse à la télévision, c'est plus musique et autres divertissements.
Mais la musique, ce n'est pas quelque chose de mauvais, le divertissement et les loisirs.
Oui, on accepte que ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais précisément, ça n'amène pas vraiment à ce qu'on recherche dans la participation des enfants. Parce qu'on parle plus d'autres choses que d'apprentissage et d'éducation. Vu que la musique de nos jours, c'est plus sur d'autres thèmes que sur les thèmes éducatifs et sociaux, quoi.
Vous avez un mot à ajouter?
Alors oui, moi je vais rajouter par rapport à ce qu'il a dit. On accorde plus de temps, plus d'espace aux musiques, oubliant que l'enfant a aussi la possibilité de s'exprimer, de faire connaître ses problèmes, de mettre à la connaissance des adultes ses droits. Donc il faudrait que l'on laisse un espace considérable pour que l'enfant s'exprime à travers les médias.
Si vous dites que ce droit n'est pas respecté, et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'il soit respecté?
Bon, c'est là d'où je reviens à dire que les adultes sont ceux qui parlent du problème des enfants à la place des enfants. Parce que l'enfant, c'est la seule personne qui connaît ses problèmes plus que l'adulte. On ne peut pas dire vraiment en généralité certains problèmes plus que l'adulte, parce que l'enfant sait quand est-ce qu'il a besoin de ça, quand est-ce qu'il a besoin de ça.
Et selon vous, qu'est-ce qui bloque cette participation de l'enfant?
Bon, moi je dirais que d'abord, on n'offre pas à l'enfant la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc, il peut avoir des problèmes, il peut avoir à dire, un mot à dire concernant, par exemple, son éducation, mais on lui offre pas l'espace pour s'exprimer, ce qui fait en sorte que l'enfant ne puisse pas participer aux questions qui les concernent. Il y a aussi les adultes qui, comme vient de le dire l'autre, qui parle à la place des enfants alors que l'enfant est le mieux placé pour exprimer, dire ce qu'il ressent.
Miradi, puisque les enfants ne s'expriment pas assez et les adultes ne comprennent pas les enfants, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, premièrement, j'aimerais que d'abord, dans le milieu social, que les parents puissent laisser l'opportunité aux enfants à s'exprimer. Parce que c'est en laissant cette opportunité qu'ils pourront comprendre c'est quoi le problème des enfants. Et au milieu du média, c'est fort possible qu'il laisse aux enfants l'opportunité de s'exprimer parce que c'est là que la communauté tout entière saura c'est quoi les problèmes que les enfants ont en général.
Vous avez ajouté, mademoiselle.
Moi, je dirais que on doit considérer le point de vue de l'enfant. On doit lui laisser assez d'espace. On doit lui laisser le temps de s'exprimer, de dire ce qu'il pense autour de toutes les questions qui les concernent. Moi, je dirais que c'est ce qu'il faut faire.
Comment est-ce que vous voulez que les adultes vous laissent l'espace de parole ou même d'expression quand ils ne savent pas qu'il s'agit d'un droit pour l'enfant? Par où faut-il commencer?
C'est ça d'ailleurs la première des choses à faire. On doit mettre à la connaissance des adultes l'existence de droits de l'enfant à la participation. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'un enfant doit s'exprimer, doit participer aux questions qui les concernent.
Il faut dire qu'il existe des textes qu'on doit mettre à la disposition des adultes, c'est ça? Des textes qui concernent justement ces droits de l'enfant à la participation, c'est ça?
Oui, il existe des textes. Il y a la convention relative aux droits de l'enfant que l'on devrait, par exemple, donner aux adultes, leur faire lire ça afin qu'ils comprennent que non, les enfants ont aussi les droits de participation.
Pour terminer, Miradi, dans quel secteur croyez-vous que la participation des enfants est plus importante?
Pour moi, je dirais que c'est dans le secteur du média, parce que c'est le média qui est le centre de tout, parce que c'est dans le média où on a la radio et la télévision. C'est par la radio et la télévision que les problèmes et tout ce que les enfants ont à dire seront dispatchés partout dans les pays, et c'est là que tout le monde aura un point de vue un peu clair sur les problèmes des enfants dans la société, dans la communauté.
Jenny?
Oui, moi je dirais que c'est plus dans les secteur de la survie. Étant donné que la survie englobe différents modes de vie de l'enfant, à savoir son alimentation, sa santé, son éducation, donc c'est dans ces secteurs que l'enfant doit plus s'adonner, plus s'intégrer en participant aux questions qui les concernent.
Oui. Jenny Ndindir et Miradi Nzumbu, Radio Kapi vous remercie.
Merci.
Merci beaucoup.
Ouvrons la page de nouvelles en bref avec le volet humanitaire. 5 millions de dollars américains, c'est une allocation du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies en faveur des personnes affectées par la crise dans les Kasaï. Elles sont plus de 100 000. Selon OCHA, cette somme a été allouée il y a plus d'une semaine et ce don devra couvrir tous les secteurs clés avec un accent particulier sur la santé et la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires de l'assistance sont notamment les habitants des territoires de Dibaya dans le Kasaï central, Kabea Kamwanga, Kasaï oriental, et Chikapa dans le Kasaï, précise OCHA. Autre nouvelle, nous allons au sud Kivu cette fois-ci où le PNUD a lancé un nouveau projet de stabilisation sociale et la protection des groupes vulnérables de cette province. Les bailleurs de fonds de ce projet, c'est le gouvernement japonais. La hauteur de l'enveloppe est de 1 million de dollars américains. Les activités du projet exécutées à partir de ce mois de mars vont durer une année et ciblent en particulier la population vulnérable habitant la plaine de la Ruzizi. Enfin, pour terminer, nous sommes toujours avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. 40 cadres et agents de la police nationale congolaise, PNC de Bunia, devaient recevoir leur brevet samedi 11 mars après une formation intense de 5 mois en police de proximité. Cette formation, assurée notamment par la police des Nations Unies UNPOL, en collaboration avec le commissariat provincial de la PNC Ituri, a donc bénéficié d'un appui du PNUD.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je voulais annoncer dans le sommaire, la faculté de droit de l'université de Kinshasa s'est dotée d'une bibliothèque du Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale, CCPS en sigle. Aménagée grâce à un partenariat entre la Colline Inspirée et la MONUSCO, a été remis officiellement au recteur de l'institution universitaire par le commandant adjoint de UNPOL. Honoré Missenga reviendra immédiatement après sur les détails dans notre nouvelle de province sur cette cérémonie, après l'entretien que lui a accordé le professeur Raoul Kenge. Il est directeur adjoint du CCPS, en marge donc de la cérémonie organisée sur le site. Entretien que je vous demande de suivre.
Professeur Raoul King, King, bonjour.
Bonjour monsieur, merci.
Nous venons d'assister à la remise des bâtiments aménagés ici à l'Université de Kinshasa. Il s'agit de quoi ?
Il s'agit d'un bâtiment qui va abriter la bibliothèque spécialisée du Centre de criminologie et de pathologie sociale rattaché à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Voilà. C'est une bibliothèque en fait des sciences humaines qui comprend des ouvrages pour permettre la recherche en criminologie et dans le domaine de la pathologie sociale, de l'anthropologie du droit et toutes les autres questions qui sont liées à la criminologie, notamment des questions de délinquance, des questions de déviance également. Voilà.
Comment ce projet a été réalisé ?
Eh bien, monsieur le recteur de notre université avait exprimé le besoin d'une collaboration à la MONUSCO qui effectivement a accepté cette collaboration. Nous avons été invités au niveau du centre à exprimer les besoins pour pouvoir démarrer et concrétiser cette collaboration. Ainsi, nous avions demandé donc un corimmerce de 3 modules pour pouvoir installer la bibliothèque qui était provisoirement installée dans un local au sein de la faculté, dans les bâtiments de la faculté. Mais c'était suffisamment étroit et nous recevions des ouvrages et nous manquions d'espace pour pouvoir les installer. Et c'est ainsi que ce Corimex a été installé avec l'appui de la MONUSCO et notre collaboration justement pour que la bibliothèque soit disponible. Voilà.
Oui, ça a coûté combien ? La MONUSCO a mobilisé combien d'argent ?
L'appui de la MONUSCO a été matériel, uniquement matériel. Comme vous pouvez remarquer, ce sont des plaques de préfabriquées, n'est-ce pas, qui ont été posées. Et dans la collaboration, nous devions nous occuper de tous les accessoires, c'est-à-dire l'électricité, faire venir l'électricité, l'eau, couvrir les tôles, et voilà tout. Et tous les accessoires. La MONUSCO a mené les bâtiments en plaques préfabriquées et donc nous avons apporté le reste. Au niveau du centre de criminologie, je pense que je peux vous le dire, notre contribution financière pour cet ouvrage s'élève à plus ou moins 1 000 dollars hein, que nous avons cherché. On a emprunté, on va voir comment rembourser pour la cause justement de la recherche en criminologie et pour au service de nos étudiants et des doctorants.
Oui, on vous a suivi dans votre présentation de tout à l'heure. Ça, ce n'est qu'un commencement. Le projet est vaste. Il y a d'autres bâtiments à construire. Est-ce que vous avez une idée sur le coût total de le projet ?
Oui, merci beaucoup. Selon l'estimation provisoire hein, que les architectes ont faite, l'ensemble du projet fini, c'est-à-dire une bibliothèque de 3 étages avec pour 400 places plus ou moins, 4 blocs de salles de cours, un bâtiment pour l'administration, une salle polyvalente de 1 000 places, un restaurant universitaire, un guest house pour des visiteurs et des étudiants étrangers. Et le coût total remonte à plus ou moins 40 millions. Mais c'est un projet qui peut se réaliser en plusieurs phases et donc la réalisation pourra prendre du temps et donc nous espérons que plusieurs partenaires pourront exprimer le désir d'appuyer totalement ou partiellement une des phases de la réalisation du projet. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre maximum 5 ans, mais au moins on avance progressivement par étapes.
Oui, plusieurs partenaires dont la MONUSCO.
Dont la MONUSCO si possible et nous avons demandé justement en attendant, comme le besoin s'est fait urgemment sentir, nous avons demandé momentanément que on puisse nous ajouter 2 autres Corimex, hein, 2 autres bâtiments du même type pour commencer à organiser des conférences dans nos propres installations plutôt que de louer d'autres locaux parce que nous n'avons pas suffisamment de financement pour chaque fois louer les salles. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons demandé 2 autres bâtiments, toujours provisoires, en attendant la réalisation et le financement de ce grand projet qui va permettre de développer la criminologie ici et qui va aussi donner une nouvelle image de notre université parce qu'il y aura des nouveaux bâtiments hein, qui vont s'ajouter sur cette colline pour faire rayonner davantage notre université.
Alors, peut-être par rapport à cette première étape du projet, vous avez un message particulier, peut-être un sentiment par rapport à la MONUSCO.
Sentiment de remerciement parce que la MONUSCO a compris très rapidement notre besoin. hein, très rapidement notre besoin. En tant que voilà homme des sciences et universitaire, nous avons besoin justement d'avoir une bibliothèque et des locaux, des infrastructures pour réaliser la mission que la société congolaise attend de nous, qui est très importante justement pour son développement et son progrès, comme nous le disons dans l'hymne de notre université.
Professeur Raoul Kenge, merci beaucoup.
Je vous remercie également.
Comme promis, suivez à présent le reportage que nous propose encore une fois Honoré Missenga Kalala, qui a accompagné la délégation de la MONUSCO à la cérémonie de remise officielle du bâtiment aménagé du Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa. Alors je rappelle que l'événement s'est déroulé jeudi dernier sur place à l'UNIKIN même.
Le commandant adjoint de INPO, la police des Nations Unies, a représenté le représentant spécial Maman Sidikou à cette cérémonie. Le général Sarr était à la tête d'une délégation de la section d'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. L'officier supérieur de la mission explique ici le contexte de l'implication de la MONUSCO dans ce projet.
Au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, nous vous remercions sincèrement de nous avoir invités pour honorer de notre présence cette cérémonie marquant la remise officielle du bâtiment aménagé pour la bibliothèque du Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale rattaché à la Faculté de Droit de Kinshasa. C'est en effet le 4 décembre 2015 que la MONUSCO a reçu une lettre du directeur du Centre de Criminologie et de Pathologie Sociale aux fins de l'aménagement d'une bibliothèque et d'une salle de conférence. Cela nous a pris donc un peu de temps en raison des formalités administratives parfois contraignantes, mais nous y sommes parvenus enfin avec la remise officielle aujourd'hui du bâtiment devant nous. La MONUSCO a décidé de soutenir cette initiative parce qu'elle reste convaincue qu'une lutte efficace contre la criminalité passe par une bonne compréhension du phénomène criminel. À cet égard, il n'y a pas d'endroit mieux indiqué que ce centre universitaire de criminologie et de pathologie sociale pour se lancer dans un tel exercice.
Un exercice qui est du goût des bénéficiaires du projet, en commençant par le recteur de l'université, le professeur Daniel Ngoma.
Notre collaboration étant scellée, nous avons obtenu de la MONUSCO le bâtiment dont nous célébrons la remise aujourd'hui. Nous exprimons ici, au nom de la communauté de l'Université de Kinshasa, nos sincères remerciements à la MONUSCO pour cette réalisation.
Même sentiment chez les étudiants.
Étudiant Elvis Kubondila de l'Université de Kinshasa de la Faculté de Droit. Nous sommes en joie d'avoir un bon bâtiment qui abrite le centre de criminologie, qui va nous permettre de faire nos recherches dans le domaine de la criminologie, mais aussi du droit pénal. Et bon, nous invitons les étudiants qui font leur travail sur le domaine de la criminologie, du droit pénal, de fréquenter la bibliothèque, d'aimer le centre de criminologie et d'aimer la criminologie. Nous remercions la MONUSCO. C'est un bon geste de sa part. Et nous sommes en joie en tant qu'étudiants d'avoir un bon bâtiment et un bon cadre de travail. Et nous espérons que la MONUSCO pourra aider les centres à avoir des bâtiments pour faire grandir la chose.
Cet agrandissement devra comprendre au stade final du projet, notamment un bâtiment administratif, une salle polyvalente, une galerie de commerce, un terrain pour les sports, une quarantaine de bureaux, des salles de réunion, pour un coût global, selon le directeur adjoint du centre, estimé à 40 millions de dollars.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
La question de ce dimanche porte sur les ADF. Elle a été posée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO, répond.
Benoît Kambéré pour les Échos de la région des Grands Lacs et RTVL Magazine. Le chef de bureau de la MONUSCO, Goma, a déclaré que les ADF Nalu seraient une machination, voire une escroquerie. Qu'est-ce que la MONUSCO en dit?
Nous n'avons pas entendu ces déclarations du monsieur dont vous faites référence, mais pour nous, c'est clair que les ADF Nalu sont un groupe terroriste qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Le Conseil de sécurité nous en a donné le mandat et dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité, il est dit précisément les FDLR, les ADF et les autres groupes négatifs présents dans l'est de la RDC doivent être combattus et neutralisés par les forces de la MONUSCO. C'est ce que nous essayons de faire depuis longtemps. On n'a pas un autre message par rapport à ça. C'est clair, nous avons une feuille de route claire et précise en matière de neutralisation de ces groupes armés. Nous le ferons, nous sommes en train de le faire conjointement avec les FRDC. La tâche est rude, nous progressons doucement, c'est vrai, lentement, c'est vrai, mais nous progressons tout de même.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Oui, je m'appelle Noëlla Luzito Kisiki, Madame Kabambi par mon mari. Je suis mariée, mère de 4 garçons, âgée de 13 ans et demi à 3 ans. Comme cursus scolaire et académique, j'ai fait l'école primaire à EP3 à Kingasan, ici à Kinshasa. L'humanité, la première partie au lycée, lui, Marie Palazzo, de Sœurs des Pauvres de Bergame, toujours à Kingasani. Et à partir de la troisième année, j'ai fait la pédagogie au collège Bonsomi des Pères Jésuites Angili, toujours ici à Kinshasa. J'y suis graduée de l'IFASIC, graduée en sciences et techniques de l'information. Licencié aussi de l'IFASIC en journalisme, édition multimédia. Dans l'agence où je suis à la MONUSCO, je travaille à Radio Okapi, la radio onusienne émettant de Kinshasa en RDC et aussi dans les grandes villes du pays. J'ai commencé d'abord comme présentatrice des informations en Kikongo. J'ai fait aussi du français un moment et j'ai fait le reportage. Mes tâches quotidiennes consistent chaque matin avec le rédacteur en chef adjoint d'appeler les provinces pour recueillir leurs propositions de reportage, leurs sujets. Et ensuite, j'ai établi le conducteur. Le conducteur, c'est le guide sur lequel nous écrivons tout ce qui est comme information, qui va passer à quelle position et selon quel format. Ensuite, dès que les textes arrivent, je les relis. S'il y a à corriger, je corrige et je les passe à la présentatrice. Ensuite, j'écoute les sons pour vérifier et le contenu et la qualité des éléments sonores. Et durant la diffusion de l'information, donc durant le journal, je suis à la réalisation de l'autre côté du studio. Comme parcours professionnel, je peux dire que j'ai commencé vraiment à faire du journalisme à Radio Elikia, que je ne venais que de passer en deuxième année de graduat. On m'a dit qu'une radio catholique commençait, comme je suis catholique. Je suis allée, je voulais juste voir comment ça se passe, comment on peut créer un média. Ils ont été très gentils, ils m'ont accueilli. Dans l'entretemps, j'ai poursuivi mes études. Après, 2 ans plus tard, j'ai fait un stage au journal Le Standard. On m'a aussi retenu à la fin du stage professionnel, mais comme la presse écrite ne m'intéressait pas beaucoup, j'ai postulé ailleurs. C'est ainsi que j'ai commencé le 2 août 98 à Raga Esperel comme reporter et aussi présentatrice des informations aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et c'est 4 ans plus tard, le 1er novembre 2002, que j'ai rejoint l'équipe de Radio Capi, d'abord pour un mois de stage parce qu'on voulait tester mon niveau. Un mois plus tard, j'ai été retenue avant tout comme présentatrice de journal en Kikongo. Quelques temps après, j'ai accouché, suis allée en congé de maternité. À mon retour, un mois plus tard, je suis passée secrétaire de rédaction et c'est ce que je fais jusqu'à ce jour. Pendant mon temps libre, j'aime écouter de la musique. J'ai fait aussi ce qu'on appelle du sport en salle, surtout pour rester en forme parce qu'on a un travail très stressant. C'est ce qui me permet de garder la forme, de tenir physiquement et aussi parce que je tiens à garder ma ligne et avoir un ventre plat. Comme musique, je suis ce qu'on appelle un bon public. J'écoute un peu de tout parce que je suis tombée dedans quand j'étais enfant et ayant eu un papa musicien. Tous mes autres frères et même nos enfants, maintenant neveux et nièces, sont dans la musique. Ce que j'aime surtout écouter, j'ai grandi écouter entre taboulé et la musique grégorienne. Donc j'écoute, j'aime bien la rumba congolaise, le ndombolo. Du côté de l'église catholique aussi, j'aime beaucoup l'église, les chansons en lingala, mais aussi la messe latine. Mais ces derniers temps, je suis tombée dans le slam. J'ai découvert Grand Corps Malade et mon jeune frère a commencé aussi à faire du slam. Ça m'a vraiment captivé avec la force des mots. Ils arrivent à exprimer ce que le commun de mortels n'arrive pas à dire. Et c'est très très fort. Et c'est le slam donc que j'ai découvert. Mais sinon pour la musique, j'écoute un peu de tout. La chanson française aussi. Et comme perspective d'avenir, je dirais que j'aimerais continuer dans la communication. Surtout la radio. Ça reste ma passion. Mais pour les affaires, pourquoi pas? J'aime bien investir dans l'immobilier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et dans l'agenda des Nations Unies, retenez déjà cette date, le 17 mars 2017, il se tiendra à New York, aux États-Unis, une réunion parlementaire à l'occasion de la 61e session de la Commission de la Condition de la Femme. Voilà, c'est la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. Merci de votre attention. Martin Sebujangwe était à la supervision. Jean-Pierre Lalikoko à la coordination. Honoré Missengatalala au reportage et à la réalisation. André Mongou à la technique. Je vous dis à très bientôt sur la fréquence de la paix. Bon dimanche chez vous. Ciao.